provoquer ainsi des atteintes graves et des handicaps, voire même entraîner la mort.
Alors Firmin, que doit-on attendre concrètement de ce défi mondial ?
Mouhamadou, les mesures prévues par le défi mondial s'articuleront autour de quatre axes. Patients et publics, professionnels de la santé, médicaments en tant que produits, systèmes et pratiques de médication. Le défi vise à améliorer le processus de médication à tous les stades, notamment la prescription, la distribution, l'administration, le contrôle et l'utilisation des médicaments. L'OMS entend donner des orientations et élaborer des stratégies, des plans et des aides pour mettre la sécurité des patients au cœur du processus de médication dans toutes les structures de santé. Ce défi mondial est le troisième de l'OMS pour la sécurité des patients.
Merci Firmin. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité par cette mobilisation de la diaspora camerounaise à l'occasion de la Journée mondiale de la santé qui se déroule le 7 avril prochain. Une rencontre des experts de la santé sera organisée le lendemain, c'est-à-dire le 8 avril prochain, en France. L'objectif est de mobiliser l'expertise du pays pour réfléchir sur les problèmes de santé au Cameroun. Le docteur Aman Genkap est l'un des organisateurs de cette rencontre. Il nous parle des sujets qui y seront abordés.
Le symposium s'articule sur quatre thématiques. L'état des lieux du système sanitaire au Cameroun, le panorama de la démographie médicale au Cameroun et dans sa diaspora, la gestion des catastrophes sanitaires au Cameroun et la quatrième thématique concerne la prise en charge des AVC au Cameroun. Ce symposium est organisé par l'Association des médecins camerounais de France et placé sous le haut patronage de l'ambassadeur du Cameroun en France et en partenariat avec la représentation de l'Ordre national des médecins du Cameroun de France. L'objectif de ce symposium est de mobiliser toute l'expertise et les compétences de la diaspora médicale camerounaise afin de réfléchir tous ensemble sur les enjeux et défis sanitaires auxquels sont confrontés le Cameroun. Je rappelle que la participation à ce symposium est gratuite, mais une inscription préalable sur le site de l'Association des médecins camerounais de France, à savoir www.medcamfrance.fr, est indispensable compte tenu du fait que le nombre de places est limité. Le symposium aura lieu de 13h à 18h à l'ambassade du Cameroun en France dans sa salle des banquets.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Une personne sur trois souffre d'au moins une forme de malnutrition selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. Les jeunes enfants et les femmes enceintes ou allaitantes sont les plus vulnérables, tandis que les réfugiés et les personnes dans les zones en conflit sont les plus exposées. En 2015, dans le monde, 156 millions d'enfants souffraient d'un retard de croissance et 45% d'entre eux vivaient dans des pays fragiles ou en proie à des conflits. Cette semaine, nous essayons d'en savoir davantage sur les causes, les manifestations et les moyens de guérir de la malnutrition. Pour en parler, nous recevons le professeur Victoire Damien Agué et les médecins nutritionnistes et directrices de l'Institut régional de santé publique de Ouida au Bénin. Elle commence par nous expliquer ce que c'est que la malnutrition.
La malnutrition, ce sont des troubles que l'on constate au niveau de l'organisme d'un être humain et qui est consécutive à des problèmes liés à son alimentation à moyen ou long terme. Ces troubles peuvent se manifester sous forme de perturbation des mesures du corps. Dans ce cas-là, généralement, on parle de malnutrition globale. Et souvent, c'est le poids de l'individu ou sa taille ou les deux qui sont concernés. On peut avoir aussi des troubles au niveau des constantes biologiques. Il s'agit notamment du taux de différents nutriments au niveau de l'organisme. Généralement, il s'agit des micronutriments. On parle de malnutrition par carence en micronutriments. Il peut s'agir aussi des troubles fonctionnels, par exemple la baisse de la vision lorsque l'intensité de la lumière diminue. On parle de cécité crépusculaire en cas de carence en vitamine A. Il peut aussi s'agir de troubles métaboliques plus prononcés. C'est ce que l'on observe dans les cas de malnutrition par excès d'apport, généralement quand il s'agit d'obésité. Et dans ce cas, généralement, les taux de métabolites peuvent augmenter. Je donne l'exemple lorsqu'il s'agit de l'obésité, de l'augmentation des lipides dans le sang. Par exemple, l'hypercholestérolémie, l'augmentation du cholestérol dans le sang. Il peut s'agir d'autres lipides, les VLDL par exemple, ou tout simplement la baisse des lipides qu'on qualifie de bénéfiques pour la santé, par exemple l'HDL cholestérol. La réduction de l'HDL cholestérol dans l'organisme peut être un signe de troubles liés à des problèmes nutritionnels, notamment les problèmes de surcharge nutritionnelle.
Alors, professeur, selon certaines études, les femmes enceintes et les enfants sont les catégories les plus vulnérables à la malnutrition. Expliquez-nous pourquoi ces catégories de personnes.
Oui, les enfants, parce qu'ils sont en pleine croissance et justement leur organisme demande plus de nutriments. Donc, leurs besoins proportionnellement à leur poids et à leur taille, leurs besoins en nutriments sont élevés et lorsqu'on ne fait pas attention à leur alimentation, ils peuvent être carencés. Les femmes enceintes, parce que justement, elles doivent non seulement subvenir à leurs propres besoins, mais également aux besoins de croissance de l'enfant qu'elles portent. Donc, ce sont les besoins complémentaires liés à la croissance qui expliquent le fait que ces deux catégories soient particulièrement vulnérables à des problèmes de carence nutritionnelle.
D'un point de vue médical, quelles sont les conséquences de la malnutrition?
Les conséquences varient selon l'âge. Chez l'enfant, et aujourd'hui on se rend compte même très tôt, même pendant la vie intra-utérine, lorsque la malnutrition survient, l'enfant peut être prédisposé à des maladies de surcharge à l'âge adulte. Un enfant malnutri, un enfant qui naît par exemple avec un petit poids de naissance, est sujet à beaucoup de problèmes, notamment de maladies infectieuses parce que son système immunitaire n'a pas tous les éléments qu'il faut pour se mettre correctement en place. Donc, c'est des enfants qui sont souvent malades et ce sont des enfants dont la croissance est altérée. Et si la malnutrition n'est pas vite corrigée, notamment si la malnutrition persiste jusqu'à la puberté, la croissance de ces enfants est retardée et ces enfants-là demeurent des enfants diminués aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental. Donc, ils ne seront jamais des adultes compétitifs aussi bien intellectuellement que physiquement. Mais il est possible de corriger ces troubles carentiels. Il suffit de les dépister et de les prendre en charge. En ce qui concerne les adultes, la forme de malnutrition que l'on observe souvent, c'est la forme pléthorique, je veux dire le surpoids et l'obésité. Et nous savons que le surpoids et l'obésité favorisent le développement des maladies de surcharge, notamment le diabète, l'hypertension artérielle et les maladies coronariennes d'une façon générale. Ils peuvent favoriser aussi la survenue de certaines formes de cancer, notamment les cancers digestifs.
Comment éviter la malnutrition?
On peut dire qu'il suffit de bien manger, mais bien manger, c'est quoi? Bien manger, c'est de manger autant que possible varié. C'est de manger en faisant attention aux apports en différents nutriments, notamment en faisant attention à l'apport en énergie, à l'apport global en énergie. Cet apport ne doit pas être insuffisant, ça ne doit pas être pléthorique non plus. Insuffisant, ça va conduire à des problèmes de troubles carentiels. Et quand ces apports sont excessifs, ça débouche sur le surpoids et l'obésité qui sont responsables des maladies de surcharge dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut manger équilibré. Manger équilibré, ça veut dire qu'à chaque repas, on a les trois catégories d'aliments, c'est-à-dire les protéines, les lipides, les glucides, auxquels il faut veiller à ajouter les vitamines. Et les vitamines sont apportées surtout par les fruits et les légumes. Donc, il faut manger bien, manger les trois catégories d'aliments et aussi à chaque repas, des fruits et des légumes, si on peut les acheter tous les deux, ou bien des fruits ou des légumes.
Les fruits et légumes qui sont d'ailleurs très accessibles en Afrique. Professeur, pour finir cet entretien, quels conseils pratiques donnez-vous à ceux qui souffrent déjà de malnutrition? Vous avez par exemple relevé que certains enfants qui ont été victimes de malnutrition très tôt ont des problèmes physiques et intellectuels à l'âge adulte. Alors, ceux qui sont déjà victimes de cette malnutrition-là, quels conseils pratiques donnez-vous? Comment guérir, si on peut dire ça ainsi, comment guérir de la malnutrition ou alors comment vivre avec quand on est déjà en état de malnutrition?
Bien. Quand on est... Déjà, j'ai parlé de deux grands types de malnutrition. J'ai parlé de malnutrition par carence. Quand la personne est carencée, pour guérir ce type de malnutrition, il faut corriger les carences, c'est-à-dire apporter à l'organisme ce qui lui manque. Et dans ce cas-là, l'individu a besoin de consulter parce que l'individu seul ne peut pas savoir quels sont les aliments dont il a besoin et qui sont carents en lui. Donc l'individu doit nécessairement consulter dans une formation sanitaire ou un nutritionniste pour avoir les conseils qu'il lui faut pour corriger ses carences. Quand la personne est en surcharge, mais généralement il s'agit de surcharge en énergie, donc la personne est en surpoids, en obésité, non seulement il faut que la personne s'applique à manger d'une façon équilibrée, donc les trois catégories d'aliments, plus les fruits et les légumes, mais il faut que la personne réduise l'apport global en énergie et surtout que la personne augmente son niveau d'activité physique. Et là, les agents de santé ou les nutritionnistes sont là pour supporter, pour donner des conseils qu'il faut et pour amener l'individu progressivement à corriger sa malnutrition.
Nous remercions le professeur Agué Victoire qui nous répondait depuis le Bénin.
Quelqu'un l'a vécu ? Voici son témoignage.
La lutte contre la malnutrition implique non seulement les gouvernements, mais aussi les organisations non gouvernementales. Des ONG comme Alliance for International Medical Action, ALIMA, qui travaillent dans plusieurs pays pour venir en aide aux personnes victimes de malnutrition. Pour toucher du doigt le phénomène, nous avons contacté le docteur Mumuni Kinda. Il est le responsable des programmes d'ALIMA au Tchad, en RDC, au Cameroun et au Niger. Il nous parle des opérations menées par l'ONG. Tout d'abord, il nous parle de l'ampleur de la malnutrition sur le terrain.
Bien évidemment que la malnutrition sous sa forme aiguë représente un vrai problème de santé publique sur la plupart des pays d'intervention d'ALIMA. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de la situation, je peux vous parler du cas du Niger que je connais très bien, mm-hmm. où on va dire chaque année, ALIMA prend en charge sur essentiellement deux terrains, notamment les districts de Miria et de Dakoro, pas moins de 40 000 enfants sur près de 400 000 enfants qui sont attendus chaque année au niveau du Niger. Donc nous prenons, on va dire grosso modo, 40 000 enfants et au Niger, il faut dire qu'il y a pas moins de 60 000 enfants qui sont pris en charge uniquement pour la partie hospitalisation par les différentes ONG au niveau du Niger. Et ces 60 000 enfants pris en charge au niveau de l'hospitalisation qui, bien sûr, ont un risque très élevé de mortalité, ne représentent que 15% de l'ensemble des enfants qui auraient besoin de prise en charge pour la malnutrition aiguë sévère, mmh. pour sa forme sévère.
Mmh. Et quelles sont les actions que ALIMA mène sur le terrain pour réduire ou éradiquer la malnutrition?
Alors, les actions consistent essentiellement à des actions de life saving, c'est-à-dire de prise en charge de ces enfants qui sont dans des situations de malnutrition aiguë sévère. Hein. Il faut rappeler que ces enfants-là, de façon indirecte ou directe, en fait, il faut dire que la malnutrition est responsable de 35% de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Donc la priorité pour ALIMA et pour d'autres ONG, c'est bien sûr de sauver la vie de ces enfants. Donc par une prise en charge, on va dire, communément on parle de prise en charge en ambulatoire, hein, au niveau des centres de santé. Pour les cas les moins graves, c'est-à-dire les cas qui ne sont pas compliqué, et avec un besoin de prendre à peu près, on va dire, entre 15 et 20% de l'ensemble de ces cas dans les services d'hospitalisation, ce qui représente quand même un gros travail, on va dire, au niveau hospitalisation, au niveau des hôpitaux, des districts dans lesquels on travaille. Alors, à cela, il faut ajouter également un travail, on va dire, d'innovation que ALIMA est en train de faire parce que pendant longtemps, il faut dire que depuis la, on va dire, la crise de 2005, il y a eu quand même pas mal de progrès au niveau de la prise en charge de la malnutrition aiguë, mais il faut reconnaître que cette prise en charge reste encore entre les mains des personnels de santé. Donc il y a quand même pas mal d'actions qui sont en train d'être prises par Alima pour ramener un certain nombre d'activités au niveau communautaire, c'est-à-dire essentiellement au niveau de la famille. On essaie de faire de telle sorte que l'identification des enfants souffrant de malnutrition aiguë puisse être faite, on va dire, par la famille. Donc par la mère, par le père, par la grand-mère, également par les tuteurs des enfants. Donc nous, on considère que si la famille peut identifier rapidement la malnutrition, cela peut éviter pas mal de complications, voire même on va dire, la famille peut commencer d'abord la prise en charge de la malnutrition avant qu'on en arrive à des formes sévères. Alors Alima a mis en place ce qu'on appelle communément un programme qui s'appelle PPMR, où on a démontré que la famille, et notamment les mères, peut aussi, bien que les agents de santé communautaires, identifier les cas de malnutrition aiguë sévère à l'aide juste d'un ruban qu'ils enroulent autour du bras de l'enfant pour identifier la malnutrition, également grâce à la recherche des œdèmes bilatéraux chez ces enfants-là.
Mmh. Et quel bilan faites-vous aujourd'hui, du moins pour l'année 2016 et le début 2017?
Alors, il faut se dire que la situation, de manière générale, reste préoccupante. Hein. Pourquoi préoccupante? Parce que vous savez très bien que cette situation de malnutrition aiguë est vraiment exacerbée par les différents conflits que nous connaissons, surtout au niveau de la bande sahélienne. On a la crise liée à Boko Haram qui amène pas mal de déplacements de population, pas mal de besoins au niveau humanitaire, avec bien sûr des taux de malnutrition qui restent très élevés, très souvent au-delà des seuils d'urgence. Donc la situation, elle reste préoccupante, voire même en 2017, on pense que la situation elle sera un peu plus préoccupante. Et vous savez que, alors je ne vais pas m'en tenir juste au pays dans lequel Alima travaille au jour d'aujourd'hui. Vous avez entendu parler du Yémen, vous avez entendu parler du Sud-Soudan, pays dans lequel d'ailleurs Alima compte ouvrir un programme justement pour faire face à ces besoins de plus en plus croissants par rapport à la malnutrition et également par rapport à d'autres besoins humanitaires. Donc la situation, elle reste préoccupante et pour le moment, il faut dire que pour 2017, Alima, nous pensons que nous allons soigner au minimum 140 000 enfants rien que pour la malnutrition aiguë sévère. Donc ça, ce sont nos chiffres, nos estimations pour les débuts de l'année qui risquent bien sûr d'être revus à la hausse.
Et y a-t-il des difficultés que vous rencontrez dans la lutte contre la malnutrition?
Oui, des difficultés, il y en a. Hein. Il faut parler également, nous travaillons en général dans des pays où la sécurité quand même reste assez préoccupante. Donc la première difficulté reste, on va dire, l'accès aux populations et aux malades, parce que c'est pas sans risque en fait pour les équipes, nos équipes au niveau du terrain, qui chaque jour prennent des risques pour pouvoir aller soigner ces populations-là. Donc ça, c'est une première préoccupation. Et nous pensons que si la situation sécuritaire s'améliore, les populations elles-mêmes pourront, de par des mécanismes différents, mieux se prendre en charge et elles auront un meilleur accès à la prise en charge. Alors l'autre difficulté, c'est bien sûr face à la multitude de crises au niveau à travers le monde. On parle plus loin, on parle de la crise en Syrie. Alors il faut savoir qu'il y a une baisse des financements humanitaires pour la prise en charge de la malnutrition, surtout au niveau de la bande sahélienne. Alors, on parle de plus en plus de la nécessité à ce que les pays, les États puissent s'impliquer davantage. Et nous savons tous que ces États-là ne sont pas prêts au jour d'aujourd'hui à pouvoir prendre plus de responsabilités. Et du coup, la baisse des financements risque d'entraîner beaucoup de gaps. On risque d'avoir beaucoup d'enfants qui n'auront pas accès aux soins de santé. Et comme je le disais au début de mon propos, en fait, au Niger, il n'y a pas moins de 60 000 enfants qui sont pris en charge uniquement au niveau de l'hospitalisation grâce essentiellement au financement humanitaire. Donc si nous avons une grande baisse de ces financements-là, il va sans dire qu'il y a beaucoup de ces enfants-là qui ne seront pas pris en charge. Et là, je vous parle du cas uniquement du Niger.
Nous remercions le docteur Mumuni Kinda. Pour suivre les activités d'Alima, connectez-vous sur www.alima-ngo.org.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Continuez à nous envoyer vos questions de santé. La question de la semaine nous vient d'un auditeur de Kinshasa. Pour y répondre, nous avons sollicité l'expertise du docteur Armand Nguenkap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France.
Bonjour docteur.
Bonjour, moi c'est Edmond Izouba. Je voulais poser une question au docteur. Juste savoir si un enfant fait régulièrement de fièvre, comment lui donner un calmant de manière définitive?
La fièvre est une élévation de la température du corps au-delà de 38 degrés. Elle est habituellement bien supportée parce qu'elle est une réaction normale de l'organisme pour l'aider à lutter notamment contre une infection. La fièvre apparaît souvent mal supportée lorsqu'elle dépasse une température notamment de 38 degrés 5. Chez l'enfant. C'est pour ça que le conseil que je peux donner à Edmond, au lieu de chercher un médicament qui va complètement le débarrasser de cette fièvre, ce calmant qu'il cherche à tout prix à trouver pour pouvoir le débarrasser de cette fièvre, je crois qu'il devrait, dans un premier temps, amener cet enfant à consulter un médecin pour qu'il puisse éliminer une infection, parce que très souvent, la fièvre, lorsqu'elle apparaît chez un enfant, est en rapport avec une infection et apparaît comme étant une réaction de l'organisme face à l'agression par une infection. Donc il faut absolument éliminer une infection chez cet enfant-là. Mais en attendant qu'il puisse consulter un médecin pour pouvoir éliminer une infection chez cet enfant, il y a des petits conseils qu'il devrait pouvoir adopter. La première chose, c'est que s'il a le sentiment que son enfant a la fièvre, il faut absolument qu'il puisse mesurer cette température-là. Il puisse mesurer la température corporelle de l'enfant. Il faudrait donc, dans ce cas-là, qu'il puisse acheter un thermomètre, ou s'il a déjà ce thermomètre, qu'il la mesure. Si la fièvre est supérieure à 38 degrés 5, il faut absolument la faire baisser, parce que si on ne la fait pas baisser, là, la fièvre risque d'être mal supportée par l'enfant et être un peu plus préjudiciable. Il faut aussi, pendant le moment où il détecte que l'enfant a la fièvre, bien hydrater l'enfant. Il suffit de lui donner régulièrement des petites quantités d'eau à boire et éviter surtout de couvrir l'enfant, parce qu'en couvrant trop l'enfant avec des couvertures, ça augmente encore la température corporelle de l'enfant, alors que lorsqu'un enfant a la fièvre, il faut absolument tout faire pour que cette température-là ne dépasse pas 38,5. Il y a aussi des médicaments qui existent, mais je crois que avant d'aller dans le domaine thérapeutique, il faut déjà faire un diagnostic. Quelle est la cause de la fièvre chez cet enfant-là? C'est pour ça que je recommande encore à Edmond de faire consulter cet enfant le plus rapidement possible.
Merci, docteur.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la malnutrition et son impact sur la santé. Nous avons reçu comme invité le professeur Victoire Damienne Agué. Elle est médecin nutritionniste et directrice de l'Institut régional de santé publique de Ouida au Bénin. Elle nous a expliqué les symptômes, les manifestations et les moyens de guérison. Nous avons écouté le témoignage du docteur Mumuni Kinda. Il est le responsable des programmes d'Alima dans 4 pays africains. Il nous a présenté les opérations menées par cette ONG sur le terrain. Notre consultant, le docteur Amang Nkap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci.
Nous disons également merci à Firmin Koyaweda pour la synthèse d'actualité. Michel Joseph assurait la réalisation pour vous présenter cette édition. Vous étiez avec Rosine Munezero et j'étais en compagnie de
Mohamedou Oumfa.
Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car
votre santé, c'est votre avenir.
Au revoir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.